relativement courte. Romains 13 au verset 11. Romains 13, verset 11, c'est le verset sur lequel nous allons nous appuyer pour cette méditation. Je vous laisse chercher. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru, et nous pouvons dire Amen. Texte de la parole de Dieu et le message que nous allons partager, c'est simplement Jésus est à la porte. Et ça réjouit nos cœurs. Combien on est réjouis de savoir que Jésus revient bientôt. Et le texte que nous avons lu nous encourage chacun d'entre nous à nous réveiller. Et à nous réveiller en fin du sommeil. Et on sait que c'est important de pouvoir réaliser dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Donc c'est un encouragement de la part de l'apôtre Paul qui apporte cette lettre aux Romains en disant « c'est maintenant l'heure de vous réveiller ». Non pas qu'il pointe du doigt le fait que l'on dorme, mais plutôt qu'il pointe du doigt les temps dans lesquels nous vivons, les temps qui seront juste avant le retour de Jésus, c'est-à-dire qu'il dit, mais ces temps dans lesquels nous sommes sont propices à l'endormissement spirituel, sont propices au fait qu'il y ait un endormissement sur ce monde qui s'abat, un endormissement spirituel et moral, vous le savez d'autant plus que moi. Et ça, c'est important. En sachant en plus, mes frères et sœurs, considérez quand même ceci, c'est que le monde parle de quoi? Il parle d'un éveil spirituel. Aujourd'hui, on parle d'éveil spirituel. Il n'y a jamais eu autant de liberté spirituelle. On peut croire en tout, en n'importe quoi, on peut se faire sa propre religion, on peut se donner n'importe quelle interprétation de la parole de Dieu ou même d'autres livres. Et c'est ça l'éveil spirituel, mais nous considérons quoi? Ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ceci, elle nous dit que le temps dans lequel nous sommes sont propices plutôt à l'endormissement spirituel. Donc il faut que l'on considère ça. Propice à l'endurcissement des cœurs. Et nous le savons, il dit car maintenant le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Il y a ce mot quand même qui est plus proche. Et c'est important pour nous parce que si nous considérons quand même le fait que Paul est en train de dire cela, il le dit à qui à la base? Il le dit à ses contemporains, à ceux qui sont avec lui. Il dit oui, mais le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Alors il faut que nous considérions aussi cela. Mes frères et mes sœurs, c'est tellement important. Oui, le salut est plus proche que lorsque vous avez commencé à croire, mes frères et mes sœurs, si ça fait des années et des années. Peut-être il y a de jeunes convertis aussi. Mais même pour eux, le salut est plus proche. Et on sait qu'aujourd'hui, tout va très vite, non? La Bible donne cette image, elle parle des douleurs de l'enfantement. Et c'est vrai que les douleurs de l'enfantement commencent pour avoir eu deux enfants. Je sais par quoi est passée mon épouse. Et je sais qu'au début, les contractions, c'était, on va dire, toutes les 30 minutes. Après, c'est toutes les 20 minutes. Après, toutes les 15 minutes. Mais même aux 15 minutes, il ne faut pas s'inquiéter, hein. C'est au bout de 5-3 minutes qu'il faut s'inquiéter parce qu'on sait que ces choses-là, elles s'accélèrent. Et le Seigneur nous laisse cet encouragement. Il nous dit, c'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil. Non pas que, bien sûr, nous considérons que nous dormions, je crois que nous veillons véritablement, mais c'est de rester ferme dans les temps dans lesquels nous sommes. Et même dans 1 Pierre 5, au verset 9, il nous dit, ayez une foi ferme. C'est tant important d'avoir une foi ferme, c'est-à-dire une foi remplie d'assurance, une foi tenace. Tenace à quoi? À la parole de Dieu, à la sainte doctrine, à la doctrine qui vient de Jésus. Être vigoureux, être droit, être solide, c'est ça, être ferme. Et je crois que le Seigneur veut nous affermir encore et encore dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Parce que vous savez l'inverse, ce que c'est être vacillant. La Bible, elle dit emporter à tout vent de doctrine. Même un synonyme, le contraire plutôt du fait d'être ferme, c'est être flasque. Parce que ça parle, moi ça m'a parlé cette image. Parce que ça m'a fait penser au texte où Jésus parle, il parle, il donne une parabole et il va dire afin de ne pas vous ramollir dans la prière. Seigneur veut que l'on soit ferme, rester ferme dans la parole de Dieu, parce que là, c'était Paul qui écrivait, mais c'était également, quand il le dit aux Hébreux, si c'est sûrement lui qui a écrit ce livre, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher que nous avons, d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur d'être emportés loin d'elles. Vous avez des peurs, mes frères et sœurs ? Moi, j'ai une peur, celle-là. Dis, Seigneur, je veux surtout pas être éloigné de toi. Dans ces temps dans lesquels nous vivons, je veux surtout pas être emporté loin de toi. Hébreux 3, 14 dit, car nous sommes devenus participants de Christ. Oui, pour vous que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions eue au commencement. Et c'est important parce que d'autant plus, il nous faut rester ferme. Je ne veux pas être emporté loin de Jésus. Je ne voudrais pas me faire piéger. Je voudrais pas me faire avoir par une fausse doctrine ou un faux prophète. Seigneur, je veux rester ferme parce que je sais que tu reviens bientôt. Et ça doit nous encourager. C'est ça, Seigneur, je veux véritablement être auprès de toi. Et je sais que ceci est une réalité pour vous. Je le crois vraiment. On le sait très bien que nous voulons être fermes dans la parole de Dieu et nous le savons que c'est le fait de veiller à ne pas être emporté loin de Jésus, veiller à ne rien retrancher, à ne rien rajouter dans la parole de Dieu. Mais vous le savez ça. Et nous nous appliquons à cela, à veiller ensemble, dire Seigneur, je veux rien de tout ça. Et même Paul va dire aux Galates, il dit, mais je m'étonne parce que certains, vous pourrez relire, c'est dans Galates 1, 6, 7, il dira, mais vous êtes si promptement détournés pour un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais Paul, il est en train de dire, oui, mais il y en a qui ont changé l'évangile de Christ. Ils ont altéré l'évangile de Christ, ils ont dégradé l'évangile de Christ, mais il faut pas que ça soit comme ça. Il dira, même si un ange annonçait un autre évangile que nous avons prêché, qu'il soit anathème, vous relirez, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Il dit, nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, nous cherchons à plaire à Dieu. Et c'est le chant que nous avons chanté, Seigneur, je veux t'imiter, parce que mon seul désir, c'est de te ressembler. D'autant plus, dans cette génération dans laquelle nous sommes, mon identité, c'est Jésus. Rien d'autre. On est d'accord ? Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous. Et parce qu'on va le voir ensemble, il nous encourage à être éveillés. Est-ce que vous êtes prêts, mes sœurs, mes frères et sœurs ? Est-ce que vos bagages sont prêts ? Et vous, on est des pèlerins, hein ? Vous avez fait vos valises ? Parce que Jésus revient bientôt. Et c'est ça, je veux être prêt, Seigneur, parce que je sais que toutes les difficultés que nous sommes en train de passer, même si on ne comprend pas pourquoi, même si on voit des choses qui nous dépassent dans ce monde, ne sont que le signe ou les signes annonciateurs de la venue de Jésus. Ce sont des choses qui annoncent le retour imminent et évident de Jésus. Et à nous d'être éveillés, enfin du sommeil, pour comprendre et discerner les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia! Et il y a plusieurs éléments dans la parole de Dieu que l'on peut trouver seulement dans la parole de Dieu d'ailleurs, hein. Pas autre part, c'est pas parce que quelqu'un dit, non, c'est seulement dans la parole de Dieu. Et j'aime bien utiliser cette image, mais il y a des éléments qui nous secouent un petit peu. Il y a des éléments qui nous secouent pour nous réveiller, hein. Moi quand j'étais ado, mon père il me disait, debout, réveille-toi, c'est l'heure d'aller à l'école. Bon là c'est les vacances, j'ai vu, il y a des jeunes ici. Mais C'est important de réaliser ça. Ça vient nous secouer, ça vient nous déranger. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il veut qu'on soit prêt. Il veut qu'il n'y en ait aucun ici, aucun de ses enfants qui soit emporté loin de toutes ces choses, qui soit détourné si promptement peut-être de l'évangile de Jésus. Non, il veut qu'on soit éveillé, prêt pour le retour du Seigneur Jésus. Amen. Alors vous avez vu dans le texte que nous avons lu, et j'attire votre attention sur cela, en particulier, il est dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes ». Mais là, j'attire votre attention sur en quel temps nous sommes. Mes frères et sœurs, vous savez en quel temps nous sommes ? Je vous repose la question et posez-vous vous-même la question, comme j'ai pu me la poser. Est-ce que je sais en quel temps nous sommes ? Est-ce que nous savons ? Alors, je sais que certains pourraient dire, mais mon frère, il faut parler de ces choses-là concernant la fin des temps, avec délicatesse, avec prudence, parce que on pourrait vite se détourner de ce que la parole de Dieu dit. Il faut être sage, il faut être prudent quand on avance des choses-là. Oui, nous savons en quel temps nous sommes, mais il faut être prudent. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait s'appuyer sur ce texte qui nous dit, dans Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Hein » C'est Jésus qui le dit. « Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Alors il faut faire attention, on ne va pas commencer à s'inventer des choses par rapport au jour, le jour même où le Seigneur Jésus viendra, ni même la seconde. Pourquoi ? Ça serait un clin d'œil. Un clin d'œil. C'est quand même extraordinaire ces passages de la parole de Dieu. Mais en même temps, et attention, ne méprenez pas ce que je vais dire, mais en même temps, il faut faire attention à ce que notre prudence ne soit pas de l'ignorance. Il faut faire attention à ce que notre connaissance ne soit pas de l'arrogance ou de l'orgueil. Ce n'est pas le fait de savoir, mais c'est le fait de s'affermir dans ce qui est écrit. Et être prudent ne doit pas m'amener à l'ignorance. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs ? Parce qu'il y a des pièges à l'ignorance. Il y a des pièges à l'ignorance. De Pierre 3,16, et c'est Pierre qui le dit. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres en parlant de Paul, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies, c'est pour ça que je vous disais, soyez fermes, et mal affermies, tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Mes frères et sœurs, il nous faut considérer ce que dit la parole de Dieu concernant la venue de Jésus. Il nous faut méditer sur cela. Il nous faut comprendre pourquoi, mes frères et sœurs. Parce que dans nos conversations, on en parle. Entre frères et sœurs, on n'en parle pas. Le vaccin, c'est quoi ? Le pass sanitaire, ça veut dire quoi, Seigneur ? Il faudrait que tu nous expliques pourquoi on vit des confinements. Il y a tellement de choses. Pourquoi il y a tant de guerres, Seigneur ? Est-ce que tous ces signes que nous voyons naturels ne seraient pas peut-être l'annonce vraiment là maintenant de ta venue ? J'essaye de vous éveiller exprès pour cela, parce que c'est important de comprendre. On ne peut pas s'empêcher, dans les temps dans lesquels nous vivons, à penser que Jésus revient bientôt. Donc il nous faut nous affermir. Il faut que l'on soit ferme sur ce que nous dit la parole de Dieu, parce qu'il y a des théories qui sortent de je ne sais pas où d'ailleurs. Mais quand il les dit, par exemple, Jésus ne revient pas sur terre. Ça sera l'église, oui, c'est peut-être certains ne le savent pas, mais il y a un courant dans les églises qui dit que Jésus ne revient pas sur terre et que ce sera l'église qui sera représentative pendant le millénium de l'autorité de Jésus. Vous avez vu ça où, vous, dans la parole de Dieu ? Ça y est pas. Ça veut dire qu'ils sont ignorantes et mal affermies et ils tordent le sens. Non, l'église ne sera pas représentative. Même les anges ont dit aux disciples qu'attendaient les yeux fixés. Ils disent, Jésus va revenir. Jésus reviendra poser son pied. Ça, c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Et il faut que l'on puisse comprendre cela. Comme certains disent, où le coronavirus, c'est un sceau qui est ouvert. Un sceau de l'Apocalypse. Non. Non, il faut qu'on fasse attention justement à toutes les spéculations qu'il peut avoir autour de la fin des temps. Mais en même temps, il nous faut vraiment nous préparer. En même temps, il nous faut nous affermir. En même temps, il nous faut être réveillés. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt et on ne doit pas tomber dans des superstitions. Jamais. On ne doit pas aller se cacher comme certains l'ont fait, vous le savez, dans des grottes. Parce qu'ils pensaient que c'était que l'Apocalypse allait s'accomplir. Mais bon, Jésus revient chercher l'Église. Donc, comprenez ce que je veux dire ? Donc oui, on ne sait pas le jour et l'heure. On n'a pas cherché à savoir. On n'a pas cherché à savoir. Mais considérons quand même ce qui est écrit, ce que Jésus dit dans Luc 12, 37-38. « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître, que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux, ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, s'approchera pour les servir, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. » Le Seigneur nous encourage simplement à veiller. Et quand on veille, on est réveillé. Sinon, on ne peut pas veiller. Il faut être réveillé. Le Seigneur nous encourage. Et je paraphrase, mais il dit, c'est pas important que ça soit la deuxième ou la troisième. C'est pas important de savoir telle semaine, tel mois, tel jour, telle heure, un lundi à 5 heures. C'est pas ça qui est important. Ce qu'il nous faut, c'est être prêt, veillé, parce que Jésus revient. Et nous crions Maranatha. Jésus vient Seigneur, viens maintenant. Et il nous faut veiller, mais veiller c'est pas rien faire, veiller c'est pas attendre. Hein. Comme il dit, si vous êtes semblable à des hommes qui attendent le retour de leur maître, mais quand ils attendaient, ils préparaient la maison, hein. La maison était propre pour le retour de leur maître, et c'est ce que nous voulons faire, mais pour nous ça veut dire nous devons méditer, nous devons nous poser des questions. Vous savez qu'il est bon de se poser des questions mes frères et sœurs. Il est bon de se poser des questions sur la parole de Dieu et sur ce qui est en train de se passer actuellement. Alors oui, nous savons en quel temps nous sommes. Oui, nous savons en quel temps nous sommes. Et le but de ça, c'est de nous affermir dans la foi, de nous réveiller enfin, véritablement, parce que Jésus revient bientôt. Écoutez bien, Ésaïe 29, 11 à 12, dit ceci. Oracle sur Dumas, on me crie de Séir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Les sentinelles, c'est nous, hein. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Le matin vient et la nuit aussi. Trouvez ça curieux, non? Le matin, il ne vient pas quand il y a la nuit. Enfin, le matin vient et la nuit aussi. Ça, c'est quand même étrange. C'est quand même curieux de dire ça. Mais il nous faut considérer aussi ce qui est dit dans Romains 13, 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la justice. Pour la terre, nous le savons, la nuit, elle vient. La nuit, elle vient. Ce sera la nuit totale, ça sera l'obscurité, ça sera pendant le règne de l'Antichrist, quand l'Église sera enlevée. Oui, et nous savons aussi que Jésus est appelé l'étoile du matin. Il est appelé aussi, me semble, j'ai pas noté la référence, mais dans Habacuc, je sais plus, en tout cas vous rechercherez, mais il est appelé le soleil de justice. Nous savons que Jésus est appelé la lumière du monde. Nous savons cela, c'est de Jésus qui parle quand il dit « le matin vient ». Jésus vient, mais nous devons considérer, mes frères et sœurs, que l'Église aussi est appelée la lumière du monde. Matthieu 5, 14, là je l'ai noté, la référence, la nuit, mais nous sommes appelés la lumière du monde, mais les temps dans lesquels nous vivons sont appelés la nuit. Nous sommes appelés la lumière du monde, mais les temps dans lesquels nous vivons sont appelés la nuit. Et je voudrais attirer votre attention. En absence du soleil, quand la Bible nous dit « nous sommes la lumière du monde », nous sommes le reflet de Christ. Oui, c'est pas nous qui brillons. C'est Christ au travers de nos vies qui brille. Et la lune n'est que le reflet du soleil. Si on voit la lune éclairée, c'est parce qu'il y a le soleil. Et quand le matin vient, quand le soleil vient, à part très tôt le matin, s'il y en a qui se lèvent tôt, on voit la lune, mais après on la voit plus. On voit plus les étoiles. C'est-à-dire, et ça nous parle de l'enlèvement de l'Église. Le matin vient, Jésus vient, ça nous parle à nous de nous encourager, à nous préparer. Parce que si Jésus vient, il enlèvera son Église. Il viendra chercher son Église parce que nous ne sommes pas destinés à la colère. Non, on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Amen. On peut même regarder ce texte qui dit, pour nous encourager encore à dire, oui, nous savons dans les temps dans lesquels nous sommes. Oui, nous savons. 1 Jean 2,18, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Comment on sait que c'est la dernière heure? Parce que Jean précise que justement on verra la dernière heure quand il y aura plusieurs antichrists. Vous savez qu'il n'y a qu'un antichrist. Celui qui est décrit dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, parle de l'antichrist. Entre guillemets, mes frères et sœurs, vous comprendrez, le prototype final. Mais il dit, il y a déjà eu plusieurs antichrists. C'est-à-dire que vous avez déjà vu la mentalité de cet impie agir dans le monde. Et nous l'avons vu comment? Avec l'empereur Néron, où il crucifiait vivant les chrétiens attachés au poteau, les brûlait vifs. Nous connaissons l'histoire avec Hitler, avec Staline, avec tous ces hommes-là qui ne sont que des personnes qui avaient la même mentalité. Mais c'est pas encore arrivé au final. Et ces personnes-là, ça nous fait peur, hein. Mais ces personnes-là ne sont rien comparé à ce qui va se passer avec l'Antichrist. Et ça nous parle, et bien évidemment, ça nous encourage à veiller. Mais tout cela, ça nous amène à parler quand même du fait que ce sont des signes. Quand Jean dit ça, c'est un signe. Il dira, voilà, c'est la dernière heure, quand vous verrez toutes ces choses-là, c'est un signe. Et les frères et sœurs qui vivaient à l'époque d'Hitler, pour ça tout le monde connaît Hitler, qu'est-ce qu'ils devaient se dire? Jésus revient. Oui, mes frères et sœurs, les personnes qui étaient dans cette époque-là, dans cette génération-là, ils ont dû se dire, Jésus revient, Jésus est à la porte, c'est pas possible autrement. Et nous pouvons le comprendre. Et c'est le cas pour toutes les générations qui ont passé des difficultés, ou je dirais des vagues successives de problèmes. Ils se sont dit, là, Jésus revient bientôt, parce que même les apôtres étaient convaincus qu'ils allaient revoir Jésus. Donc ça nous parle, mais en même temps, ça nous fait comprendre un texte de Pierre 3,4 et disait, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent dès le commencement de la création. Ils sont en train de, je vais paraphraser pour bien faire comprendre, mais nous vivons ces temps-là. Mais où est la promesse de ton avènement? Mais enfin quand même, tout ce que tu dis là, tous ces signes que l'on entend parler, mais ça y est depuis le début. Les catastrophes naturelles, c'est depuis le début. Les signes spirituels, c'est depuis le début. Les signes moraux, mais il y en a eu. Alors comment tu peux dire maintenant, c'est la dernière heure? Parce que depuis le commencement, c'est comme ça. Et il y en a qui vont rester comme ça. Et vous connaissez les signes spirituels, moraux, tout cela. Quand il est dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira, le bien sera appelé mal, le mal sera appelé bien. Il y aura des bruits de guerre et des guerres. Il y aura toutes sortes de choses. Vous savez, Matthieu 24, toutes ces choses-là, vous les connaissez. C'est une réalité. Mais c'est vrai, comment savoir? Parce qu'au final, oui, toutes ces choses, elles sont depuis le début. Et on pourrait un petit peu se lasser en disant, Seigneur, oui, c'est depuis le début quand même. Alors comment savoir si tu reviens bientôt? Comment savoir si tu reviens bientôt? Et pourtant, il faut se préparer, mes frères et sœurs, parce que Jésus revient bientôt. Et je vais attirer votre attention sur cette question que les disciples... Parce que je disais, il faut se poser des questions. Mais les disciples, ils ont posé des questions. Ils ont posé quoi comme question? Quel est le signe de ton avènement? Vous connaissez ça? Quand est-ce qu'on saura que tu vas rétablir le royaume d'Israël? C'est ce qu'ils vont poser comme question. Mais vous savez, on fait une erreur. Parce que nous, quand on dit quel est le signe de ton avènement, on pense à quoi? On pense à l'enlèvement de l'Église. Mais eux, quand ils posent cette question, mes frères et sœurs, ils disent par rapport à la venue de Jésus sur terre, par rapport au rétablissement d'Israël, par rapport au fait que Jésus va rétablir enfin le royaume. Mais quand ils parlent de ça, ça nous rapproche encore plus, nous, de la venue de Jésus. Parce qu'on sait qu'elle arrivera avant L'enlèvement de l'Église plutôt arrivera avant la venue de Jésus sur terre. Donc les signes qui sont décrits, les signes que les disciples demandent à Jésus sont par rapport à Israël, par rapport au rétablissement de leur pays. Et ça, je dirais, attirer vraiment votre attention sur ça. Parce qu'il y a tellement de choses. Des signaux sont au vert pour nous dire, il faut nous préparer parce que Jésus revient. Il est véritablement à la porte. Jésus va répondre aux disciples. Vous connaissez tout ce qu'il disait, on vient d'en parler, les signes. Mais il parle de quoi? Par rapport à sa venue. Pour eux, ça fait qu'un, en fait, l'enlèvement de l'Église. Mais pour nous, on sépare parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. Mais quand même, il est dit, et il faut considérer cette nation d'Israël. Oui, mes frères et sœurs, il faut considérer ce qui se passe actuellement en Israël. C'est un signe annonçateur du retour de Jésus. Et je vais m'expliquer avec la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des symboles dans la parole de Dieu, comme le Saint-Esprit, il peut y avoir la colombe, le feu, l'eau. Et pour Israël, il y a notamment trois arbres qui représentent Israël. J'en lis un, juste un verset pour vous. Habacuc 3, 17. « Car le figuier ne refleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étals. » Le figuier, la vigne et l'olivier, ben voilà, ce sont les symboles. Hein. Je ne fais pas un cours, mais écoutez bien là où je veux véritablement vous amener. Et le figuier, ça représente Israël en tant qu'État. Voilà, en tant qu'État, la vigne, c'est le peuple qui est choisi de Dieu. Et bon, on ne va pas parler de ça, mais juste attire votre attention sur le figuier qui représente l'État d'Israël. Ça ne fait pas si longtemps qu'Israël est un État, non? Depuis 1948. Et c'était en 1967 qu'il y a eu la reprise de la vieille ville. Hein? On le sait. Ça fait maintenant, 1948, pour les plus jeunes, c'est passé. Hein? Non, ça fait un moment qu'Israël, c'est un État, en fait. De l'eau a coulé sous les ponts. On parle de 1948 comme si c'était hier, mais c'était pas hier. Israël est bien implanté. Israël est reconnu. Israël est pris comme modèle. Israël est respecté. C'est un État instauré. Et que nous dit la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs? Je finis avec ça. Matthieu 24, 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que cela arrive. Jésus nous invite à prendre en comparaison tirée du figuier. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? À l'heure actuelle où tous les Juifs sont en train de retourner en Israël, ça annonce, et c'est le signe annonçateur, de l'assemblée de tous les croyants dans le ciel, à la rencontre de Jésus. Il nous dit, quand vous verrez ces feuilles devenir tendres, quand vous verrez les feuilles pousser, vous savez que l'été est proche. Et oui, cet état est en train véritablement de s'installer si elle n'est déjà installée. Donc il faut véritablement prendre conscience de cela. C'est un signe précurseur de l'enlèvement de l'Église. Ça doit nous faire réfléchir. Parce que nous attendons quoi? Nous attendons le Seigneur Jésus. Et bien maintenant, le Seigneur Jésus, il peut revenir d'un instant à l'autre. Qu'est-ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu qui n'est pas accompli concernant l'avènement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église? Tout est écrit. Et la Bible, elle nous encourage, dit, vous savez quelle l'heure, vous savez dans les temps dans lesquels nous sommes. La nuit approche, le jour vient. Réveillez-vous, réveillons-nous mes frères et sœurs. Et cela, ça doit nous encourager. Et je finis avec ce verset de Corinthiens 13, 5. Examinez-vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et on doit se poser la question de se mettre devant le Seigneur Jésus. Dit, est-ce que ma communion avec toi Seigneur, elle est ce que tu veux qu'elle soit? Est-ce que, Seigneur, je suis assez proche de toi?
Est-ce que je suis éveillé, Seigneur? Parce qu'il y a un truc que je ne veux pas rater, c'est ta venue. Et je crois, mes frères et sœurs, que vous aussi, c'est l'objectif. Alors que ce monde est en train de nous endormir, le Seigneur, il nous secoue pour qu'on soit réveillé. Et il nous dit, mais prenez en comparaison de tirer du figuier. Puis il y a tout le reste, hein. Il n'y a pas que Israël, il y a tout le reste. Il faut qu'on s'examine. Dis, Seigneur, c'est ma responsabilité. Examinez-vous vous-même. C'est la responsabilité de chacun de nous. C'est ma responsabilité comme c'est la vôtre devant Dieu. Est-ce que, Seigneur, ce que j'ai été négligé, est-ce que je me suis éloigné de toi? Seigneur, bouscule-moi. Fais la guerre à ma vieille nature. Règle le péché qu'il y a dans ma vie, Seigneur. Règle tout ce qui est revenu. Je ne veux plus de ça, Seigneur. Je veux te ressembler. Je veux te suivre. Dans les temps dans lesquels nous sommes, combien de temps, on ne sait pas. Mais quand même, il est dit, veillez, réveillez-vous. Luc 21, 34, 36, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Et je crois qu'on est là pour prier, mes frères et sœurs. J'ai pris beaucoup de temps pour partager la parole de Dieu, mais nous savons que prier, ce n'est pas seulement ici, mais aussi à la maison, avec nos épouses, avec nos maris, avec nos enfants. Veillez et priez. Veillez, c'est véritablement chercher ce que le Seigneur nous dit, et il nous dit afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mes frères et sœurs, véritablement, remettons-nous devant Dieu, plions le genou encore et encore, en disant, Seigneur, montre-moi, sonde mon cœur, révèle mes pensées, parce que je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas rester là, je veux partir avec toi.